Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h46, les grands débats du matin ce matin. Faites-nous un petit débrief. Est-ce que vous avez regardé Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous avez regardé Éric Zemmour? Appelez-nous 0826-300-300 pour nous donner votre avis. On en parle ce matin avec Arlette Chabot et Christine Bouillot. Et déjà des appels au standard.
Et à propos de Zemmour-Mélenchon, justement aussi, tout à l'heure après 9h, nous aurons Jules Torres, de journaliste politique qui est à Valeurs Actuelles. Mm-hmm. Et nous aurons Thomas Porte, qui est président de l'Observatoire National de l'extrême droite et qui était chez les écolos et qui passe plutôt du côté de Mélenchon. Ils seront avec nous en débat aussi et avec vous au 0826-300-300. Et justement, un premier appel.
Et on démarre avec vos appels, avec Laurent qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Laurent, bienvenue.
Bonjour Laurent.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous.
Oui, Laurent, alors vous vouliez réagir sur... débrief sur quoi? Sur Zemmour, sur Mélenchon, sur Pécresse, sur Ciotti. Enfin, un week-end politique de...
Chargé
quand même, quoi. Hein.
Oui, alors moi j'ai vu... quasiment totalement le débat d'Éric Zemmour, qui était vraiment, on voit un gars qui a la France chevillée au corps. Ouais. Il n'y a pas de langue de bois, ça c'est certain.
Ouais.
Et c'est bien sûr, il y a de l'agressivité, mais la politique, qu'est-ce que c'est? C'est l'agressivité pour ne pas qu'on se fasse la guerre avec des armes à feu dans la rue. Mmh. C'est ça la politique. Qu'est-ce qu'on préfère? Parler sèchement ou sortir des fusils comme aux États-Unis? Les gars s'expriment avec des fusils, regardez cette fusillade à bord qui a eu. Bah voilà, bon alors que préfère-t-on? Moi je préfère parler, même si c'est un peu virulent. Mmh. C'est comme ça la vie.
Mais Laurent, c'est plutôt la fermeté plutôt que l'agressivité, non?
Ah ben la fermeté, mais certains se sentent agressés. Quand quelqu'un est ferme dans ses propos, des gens vont se sentir agressés. C'est comme ça. Voilà. Mais surtout, il ne faut pas faire loupe sur des détails de quelques illuminés qui aiment bien se castagner. Il y en a toujours eu.
Faites référence, Laurent, aux incidents, là. C'est ça qui ont eu lieu pendant le meeting de Zemmour, quoi.
Oui. Exactement, que j'ai vu. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des faits divers. Ouais. Si on fait une loupe là-dessus, on ne comprend rien à ce qui se passe.
Oui, c'est vrai. Alors, les propos ont été quand même, vous l'avez dit, assez agressifs. Restez avec nous, hein, Laurent. Arlette Chabot, Christine Bouillot, vous êtes avec nous. Arlette Chabot, et ce que dit Laurent est juste, quoi, aussi. La politique, c'est fait quand même pour dire les choses, quoi. Alors, est-ce qu'après, dans le choix des mots, du vocabulaire,
vous qui suivez la politique depuis des années... Que la charge contre Emmanuel Macron est quand même très violente, parce qu'elle est personnelle. Oui. On peut critiquer la politique d'Emmanuel Macron, on peut critiquer évidemment l'action du président de la République, on peut mettre en doute la sincérité ou la capacité du candidat Macron, puisqu'il sera candidat à gouverner la France et à faire un mandat de plus. En revanche, moi ce qui m'a beaucoup choqué, c'est quand on est sur les attaques personnelles, quand il dit que c'est un adolescent en recherche perpétuellement en recherche de lui-même, quand il dit qu'il est le néant, quand il dit qu'il n'est personne. Donc, c'est très violent quand il parle effectivement d'une image de plastique. Quoi. C'est quand même, je trouve, là on est dans l'insulte personnelle.
Ouais.
Donc ça n'a rien à voir avec ce qui est des attaques, politiques.
Ouais,
ça c'est totalement
Zemmour comme
différent.
Mélenchon de l'autre côté,
mais
ils
c'est
vont
pas
très
Mélenchon.
Loin.
Mélenchon ne fait ça. Vous pouvez attaquer violemment sans attaquer
Mélenchon
la personne.
Mélenchon le fait parfois aussi. Hein.
Rarement sur le plan personnel, les attaques politiques, parce que ça nous ramène à des atmosphères, retour en arrière, c'est du super Trump, si j'ose dire, il va encore plus loin que Donald Trump dans la transgression, moi je trouve que c'est un petit parfum années 30.
Voilà, les Laurent, alors qu'est-ce que vous répondez à Arlette, qui prend de la hauteur par rapport à ça, pour analyser les choses, quoi, hein, sans prendre parti?
Eh bien, moi, je pense qu'on se trompe. Une personne, c'est quoi? C'est un corps et des idées. Zemmour, on peut le critiquer aussi sur sa manière de se tenir. On peut le critiquer sur son expression. On peut le critiquer sur ses idées. Non, pas de dissociation entre l'esprit et le corps. C'est la même chose. Une personne, c'est les deux. On peut, bien sûr que si. On peut s'échauffer. Alors, vivons derrière des téléphones, comme maintenant, et derrière des radios, et comme ça, il n'y a plus de corps que des esprits. Ben, d'accord.
Respect pour les individus, pour les personnes. Éric Zemmour demande à être respecté pour sa personne doit être respectée, hein, quand il s'attaque aux journalistes qui veulent sa mort sociale.
Bon, c'est vrai qu'il subit beaucoup d'attaques. Quand même,
mais je ne dis pas le contraire. Je pense qu'il a le droit de réclamer, lui aussi, d'être respecté en tant que personne. Ce qui n'empêche évidemment pas de le critiquer ou de critiquer sa démarche. Je trouve que franchir cet espace, ça amène une violence dans le débat politique qui est franchement inutile, parce que la violence, elle est déjà partout.
Oui, elle est déjà partout. Allez, avant d'entendre Christine Bouillot aussi, merci Laurent, c'est Chantal qui est avec nous.
Oui, qui nous appelle de Montauguet.
Montbourguet,
voilà, c'est ça, en Occitanie, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Eh bien, bienvenue, Chantal.
Oui, Chantal,
merci. Merci. Eh ben, je vous ai appelé ce matin parce que j'ai été très choquée hier. Moi, je vais sur Internet quand même. J'ai 71 ans. Hein. Donc, je vais sur Internet et je suis branchée France Insoumise. Complètement. Je l'accuse. Mais, et donc, je regarde à chaque fois des débats, etc., des interviews de M. Mélenchon, etc. Mais là, hier après-midi, je me suis dit, je vais voir, il y a un meeting. Il y a un meeting de Mélenchon à Paris.
À la Défense, ouais.
Je vais aller voir.
Ouais.
Je fais la 15, la 16, la 26, Zemmour, toute l'après-midi.
Ah bah Chantal. Il a été diffusé sur CNews, comme sur LCI, comme sur BFM, avant, à partir de, je crois que c'est 14h45, 15h, quoi. Et pendant tout son meeting, hein, Arlette Chabot, vous étiez en direct sur LCI hier.
Absolument,
c'est ce qui s'est passé.
Tout a été diffusé intégralement.
Ouais. Et d'ailleurs...
Ah bon, alors je me trompe, alors j'ai regardé à 16h, alors.
Ah bah non mais 16h c'était terminé. D'ailleurs, non mais ce qui est intéressant Chantal, sur ce que vous dites, ça nous mène quand même à une référence entre ces politiques, Zemmour d'un côté et Mélenchon de l'autre. Ils sont certes adversaires, mais ils se respectent plus ou moins, et d'ailleurs Arlette Chabot, il y a eu une sorte d'entente tacite hier pour dire
sur les horaires des discours, pour pas qu'ils se chevauchent, que ce soit bien l'un après l'autre avec Jean-Luc Mélenchon, demandant à plusieurs reprises où il en était de son temps de discours.
Oui.
Et tout était assez bien synchronisé.
Assez bien synchronisé,
et d'ailleurs,
vous voyez.
Pourquoi ? Parce que, je ne dirais pas de complicité, mais on sait très bien que dans le clip de déclaration de candidature d'Éric Zemmour, il y a beaucoup de photos, d'images de responsables politiques qui l'accusent d'avoir mené la France dans le fossé. Il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon.
C'est vrai, il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon. Christine Bouillot.
Oui, avec la petite subtilité quand même que, comme il avait une heure et demie de retard, ça a doublé le temps où on a parlé de Éric Zemmour hier quand même, hein, puisqu'il avait une bonne heure et demie. Enfin, je veux dire, c'est aussi une façon de voir les choses en termes d'occupation, sans doute le sentiment de notre auditrice.
Pas sur toutes les chaînes. Non, pas sur toutes les chaînes.
Grande majorité des chaînes, mais enfin, globalement, c'est l'impression que ça a donné quand on était loin de tout ça, de ce bruit et de cette fureur, puisque ce matin, quand on écoute, quand on lit, quand on regarde, on voit surtout, effectivement, un début de campagne marqué quand même par le bruit, la fureur et la violence. Voilà, c'est un peu ça qui ressort du meeting de Éric Zemmour, qui s'en prend. J'ai trouvé qu'il avait pas trop changé son discours, s'en prendre aux médias, dire qu'on veut sa mort sociale, alors qu'il a un temps d'antenne, je crois, record. Je crois que même certains confrères l'ont souligné sur des chaînes où il avait l'habitude d'aller. Donc, je pense qu'il y a effectivement ce paramètre-là.
Oui, mais alors, c'est vrai, Christine Bouillot, il y a eu un temps, peut-être pas record, mais un temps en tout cas très large sur beaucoup de chaînes consacré en fait à Zemmour. Mais ce que l'on reproche aussi à ces chaînes, c'est ce temps était consacré beaucoup aussi à la critique, quoi, en fait, de Zemmour essentiellement, quoi.
Bah déjà, il y a une heure et demie à attendre qu'il arrive, donc il y a eu beaucoup de.
Oui, ça c'est vrai.
Et donc forcément, ça donne effectivement du temps d'antenne où on essaye d'expliquer comment les choses vont se passer. Puis après, il faut se mettre à la place des Français aussi qui regardent ça. C'est-à-dire que nous, on est quand même des observateurs politiques, ou en tous les cas, c'est notre métier, donc on est focalisé sur ce qui se dit. Tout le monde n'est pas focalisé non plus sur ce temps d'antenne. Hein. Il n'y a qu'à voir le monde qu'il y avait dans les marchés de Noël hier un peu partout en France.
Bien sûr.
Les Français étaient en train de faire leurs courses, en train de préparer les fêtes de Noël, enfin en se demandant comment elles vont les préparer. Moi, il y a une image qui m'a quand même vachement... qui m'a drôlement surprise, c'est le manque de masques. Hein. C'est cette image de...
Hier,
de...
sur les marchés.
Ah non, dans les meetings.
Ah, dans les meetings, pardon.
Tout le monde était bouche ouverte. Non, je dis ça parce que quand vous avez...
Alors, certains avaient quand même des masques, mais c'était... ça devait être 1 sur 3, non, à peu près, non ? Oui, globalement, dans les deux
globalement,
meetings.
Il y avait peu de masques, mais globalement, c'est un peu ça. Certains médecins, d'ailleurs, et grands spécialistes s'interrogent ce matin sur le danger de cette campagne électorale en ce moment, de ces meetings politiques avec beaucoup de monde. Voilà, ça, je ferme la parenthèse. Je dis ça aussi parce qu'en ce moment, on est en train de préparer des jauges supplémentaires, des restrictions supplémentaires qui vont enquiquiner la vie des Français, il faut quand même le reconnaître.
Ouais, c'est vrai.
Après, sur le rendu de ce week-end politique, il s'est passé beaucoup de choses. Il en ressort quand même qu'une femme est candidate pour la droite, qui rebat un peu les cartes sur la partie droite de l'électorat qui est concernée par Éric Zemmour. Et donc, il sera intéressant. Mais on a une carte postale, c'est ça qui est intéressant ce lundi matin. On va dire de la campagne électorale, il ne reste plus que, j'avais envie de dire, l'annonce de candidature d'Emmanuel Macron. Après, sur la tonalité, moi, ce que j'en ressors, en discutant avec les gens dans la rue, c'est quand même une campagne qui est très dure, qui est très violente aujourd'hui. Hein. C'est ces images-là qui ressortent.
Merci Christine Bouillon. On va continuer dans un instant et vous pouvez réagir vous-même. Est-ce que vous pensez que justement que cette violence entre guillemets dans les propos est justifiée? Est-ce que Éric Zemmour a bien démarré? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon lui aussi a marqué des points et peut revenir d'ailleurs sur la scène complètement, enfin en tout cas dans le match si je puis dire, Valérie Pécresse et Ciotti, est-ce que le couple va tenir aussi? 0826 300 300, vous nous appelez, vous avez la parole. Et puis un mot aussi quand même, Christine l'a évoqué à l'instant, du nouveau conseil de défense sanitaire qui va avoir lieu. Est-ce que vous craignez des restrictions? Bah, vous dites oui quand même à 75%. Et puis nous aurons aussi nos, donc vous-même vous appelez, et nous aurons aussi nos auditeurs qui ont gagné pour
notre cadeau du jour, hein, l'Arena Narbonne le 11 décembre pour les Chevaliers du Fiel. On a déjà des gagnants au standard, hein, ça cartonne. Restez avec nous dans un instant, la suite des grands débats, 8h57.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h04, merci d'être avec nous. Et nous avons, Patrick, un gagnant. Hein. Donc,
oui,
un
avant
gagnant,
de reprendre les grands débats, les gagnants.
Oui, absolument.
Quoi, parce qu'on va commencer les cadeaux de Noël. Ben là, on commence par un petit...
c'est un joli cadeau quand même.
C'est un joli cadeau,
de place. Alors, si vous êtes libre le 11 décembre, vous pouvez y aller. En l'occurrence, les places que nous offrons ce matin sont offertes. C'est pour l'Arena de Narbonne, les Chevaliers du Fiel. Et avec nous, pour en parler, c'est Pierre. Bonjour, Pierre.
Oui,
bonjour, Pierre.
Oui, bonjour.
Comment ça va, Pierre?
Ah, mais ça va très bien.
Je comprends.
Le temps, c'est fait à mon test, c'est gris, il pleut un petit peu.
Bah, c'est gentil de nous faire la météo, dites-nous, allez-y.
Pierre, vous allez remplacer Rémi André.
Allez-y, on vous écoute.
Non, je peux pas.
Bon. Ah non, je peux pas. En tout cas, il fait un petit peu de pluie, mais c'est pas grave. On vous offre du soleil ce matin. Puisque vous allez partir. Donc, vous allez aller à l'Arena de Narbonne le 11 décembre voir les Chevaliers du Fiel. Deux personnes, deux places. Vous allez y aller avec qui, Pierre?
Eh bien, avec mon épouse.
Et ben voilà.
Et bien, on va se faire un week-end à Narbonne.
Parce que vous êtes d'où, Pierre?
Dans le Tarn-et-Garonne.
Du Tarn-et-Garonne.
Mais où dans le Tarn-et-Garonne?
C'est pas. Comment?
Où dans le Tarn-et-Garonne?
À Montech, à côté de Montauban.
Bien, on reconnaît l'accent.
Donc, voilà. Oui.
Et vous nous écoutez depuis longtemps, Pierre?
Ah, ça fait des années, mais je passe quelquefois à l'antenne aussi.
Ah oui.
Ah, c'est
je
bien.
Je vous écoute depuis très, très, très longtemps.
Voilà. Bon, en tout cas, voilà, votre fidélité est récompensée. Merci beaucoup, Pierre. Embrassez votre épouse. Et puis, vous nous enverrez une petite photo ou un petit message quand vous aurez vu les Chevaliers du Fiel. C'est le 11 décembre. Merci d'avoir été avec nous.
Si je peux prendre la photo avec eux, je vous l'enverrai.
Avec grand plaisir.
Non, mais si, vous pourrez. Vous leur direz que c'est Sud Radio qui vous envoie.
Voilà.
Il n'y a pas de souci.
Et passez de belles fêtes. Merci beaucoup, Pierre.
Oui. On continue avec les grands débats.
Matin.
Oui, évidemment, on revient beaucoup sur Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Pécresse, Ciotti, et puis le Conseil de défense sanitaire. Dans un instant, on sera avec aussi deux invités en fait ce matin qui seront avec nous, Jules Torres qui est journaliste politique à Valeurs Actuelles et Thomas Porte hein, qui est lui président de l'Observatoire National de l'extrême droite et auteur de Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. Avant cela, vos appels pour revenir justement sur ce week-end. Est en ligne?
On part à Lille avec Jérôme. Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Bonjour à toute l'équipe de Sud Radio, vous faites un boulot vraiment super, je voulais commencer par ça.
Merci, ça nous fait chaud au cœur. Qu'est-ce qui vous fait réagir, vous?
Alors moi, ce que je trouve assez hallucinant, c'est que hier, j'étais au meeting d'Éric Zemmour, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai plus trop de voix, et donc nous, on a vu une ambiance plutôt bon enfant, on a attendu un petit peu dehors, les gens partageaient les parapluies, etc., on discutait tous, et c'était très bien comme ça. Je voulais simplement dire que Quand on est reparti, on a regardé un petit peu les gros titres du jour et on s'est partagé dans la voiture. J'étais parti là-bas avec deux amis.
Ouais.
On a l'impression qu'on était 15 000 nazis qui s'en sont pris à des pauvres militants gentils qui étaient venus faire des câlins à tout le monde. C'est juste odieux le parallèle entre la réalité de ce que l'on a vu là-bas et de ce qui s'est passé et de ce qu'on lit dans les titres et ça donne une opinion aux gens qui est complètement biaisée et on parle quand même d'une élection présidentielle et on ne laisse pas les gens se faire leur propre avis parce que concrètement ce qui s'est passé c'est qu'on a un candidat qui s'est fait agresser, ça j'y reviens même pas dessus, c'est un fait. Maintenant les chaises étaient vissées au sol et elles étaient vissées entre elles. On a quand même vu, enfin moi c'était 10 mètres derrière, hein. J'ai vu une chaise passer par dessus bord et atterrir sur les gens. À partir de ce moment-là, il faut quand même être assez naïf de croire que ça va bien se passer. Et ce qui s'est passé juste derrière, c'est que le service de sécurité a entouré ces gens justement pour ne pas qu'ils se fassent agresser et les a virés. Ce qui est jusque-là plutôt logique. Maintenant, quand on regarde les gros titres où on s'en serait pris à des militants antiracistes, puisque à partir du moment antiraciste, c'est forcément une cause louable.
C'est-à-dire que il y a eu quand même, parce qu'ils sont venus, ils ont levé en fait leur pull, leur veste, etc. pour montrer, pour arborer leur t-shirt de SOS Racisme. Et c'est à partir aussi de ce moment-là. Donc ça, c'était certes d'un côté une provocation. Hein, c'est clair, même. Ils savaient à quoi s'en tenir en allant là-bas. Après, évidemment, là où ça a un peu dérapé, c'est qu'il y a eu quand même quelques personnes, quelques individus qui ont été beaucoup plus violents, quoi. Alors qu'il y avait un service d'ordre qui faisait bien les choses, quoi. Ça, Jérôme, on ne peut pas le nier, en fait, quand même, quoi. Et ça, c'est regrettable, quoi, évidemment, hein.
C'est regrettable. Maintenant, on a eu quand même un meeting qui a duré globalement toute l'après-midi et avec 15 000 personnes.
Ouais.
Dans des conditions qui étaient, enfin, on est arrivé, on est passé devant la gare, ça commençait déjà à se battre avec les forces de l'ordre et on sait ce qu'on a trouvé à l'extérieur aussi. Je pense que ça aurait pu être bien pire si l'état d'esprit était
d'ailleurs plus mauvais que ça. C'était redouté aussi avec des contre-manifs qui étaient là. C'est vrai. Bon, cela dit, c'était dans une l'atmosphère quand même assez houleux et tendu par ailleurs en certains points. Merci, hein, Jérôme, de nous avoir appelé 0826 300 300. Un mot de commentaire, Christine Bouillot ou Arlette Chabot sur à ce sujet, justement, sur cette atmosphère. Christine ?
Disons que je comprends effectivement que ceux qui étaient à l'intérieur, qui venaient voir un candidat, sortent un petit peu désarçonnés par la couverture, parce qu'on a vu effectivement en boucle ces images de violence qui se passent, et il faut expliquer pourquoi aussi il y a beaucoup d'images. Elles se passent à l'arrière du meeting, sur lesquelles il y a les plateaux, il y a toutes les estrades, des chaînes en info continue, donc il y a tous les journalistes qui sont présents sur place. Donc évidemment, ces images ressortent inévitablement, mais pas que. Donc c'est effectivement quelque chose de compliqué. On peut débattre pendant des heures sur cette séquence. Est-ce qu'on aurait pu empêcher ces militants de SOS Racisme de rentrer? Est-ce qu'on aurait pu les exfiltrer sans qu'il y ait des violences? Enfin, je veux dire, ce genre de situation, elles ont déjà eu lieu sur les meetings, mais en tous les cas, elles donnent ce sentiment que la tension était vive et presque tout le monde attendait que ça se passe comme ça. J'ai un petit peu ce sentiment-là aussi.
Oui, ça, c'est pas faux. Allez, 0826 300 300.
Et Patrice qui nous appelle de Paris. Bonjour Patrice.
Bonjour Patrice.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Avec plaisir.
Et bravo pour vos émissions qui ont une constante de liberté que j'apprécie énormément.
Bon, alors justement, beaucoup, espace de liberté pour vous, parlons vrai. Patrice, quel est votre sujet? Enfin, lâchez-vous en même temps, dans le respect des règles.
Non, je ne vais pas me lâcher, je vais vous en rougir. Non, c'est simplement, j'ai pas apprécié... Alors, Madame Pécresse est une femme très honnête et courageuse et qui a beaucoup de qualités, c'est certain. Mais je veux dire, il y avait un candidat qui s'appelle Monsieur Ciotti qui a, lui, toutes les qualités du monde, à mes yeux, pour présider un pays comme la France, avec des idées gaullistes que je partage depuis mon enfance, pratiquement. Et pas seulement pour ça, mais je veux dire, c'est un homme sensé, posé, raisonnable, qui a des idées de droite, mais pas d'extrême droite, comme on a bien voulu l'accuser bêtement. Et surtout la presse, excusez-moi messieurs, mesdames, mais voilà, je pense que en amont de tout ça, quelqu'un comme Christian Jacob qui organise un espèce de faux débat en arrière, alors que Ciotti était quand même en première position, même de quelques petits points, je veux dire, la manière dont ça s'est passé, on sent qu'il y a encore des magouilles derrière tout ça, et qui font que je voterai pas pour Madame Pécresse, pour cette raison-là, et je voterai probablement pour quelqu'un d'autre. Mais vous évoquez
Patrice, il y a eu quand même après le vote, quoi. Donc tout était ouvert. Il y a eu un appel des autres candidats en faveur de Valérie Pécresse, mais finalement tout n'a pas été suivi puisque ça a été du 60-40. Hein,
Oui, le seul problème qu'on va rencontrer, c'est qu'elle a aucune chance de se retrouver au deuxième tour face à Macron. Aucune.
Vous croyez? Ah oui, vous croyez?
Oui, bah, c'est une évidence.
Oui. Non, mais est-ce que on ne sait jamais ce qui se passe.
Christian Jacob aussi.
Comment?
Je pense que Christian Jacob sera peut-être ministre, mais
Vous en avez beaucoup contre Jacob. Bon, je vois.
Non, j'ai rien contre lui. Oh non, il est charmant. C'est un homme très élégant, très souriant, qui parle bien. Mais je le soupçonne d'avoir quand même organisé tout ça de main de maître et au détriment de l'électeur bête et méchant que je suis.
Ouais.
Et qui regrette infiniment Ciotti, voilà.
Bon après, il y a match, il y a vote, donc.
C'est un vote électronique, on ne bourre pas les urnes.
Ouais, il n'y a pas eu de bourrage des urnes.
C'est un vote électronique, hein, quand même.
Mais après, je comprends votre déception, hein, votre amertume. Bon, la campagne va être longue, hein, Patrice. Donc il y aura encore des débats, des échanges, et vous aurez l'occasion, évidemment aussi, de nous appeler et puis peut-être de voir votre position évoluer dans un sens ou dans un autre. Je ne suis pas là pour vous influencer, mais bon, je ne sais pas, on verra. Peut-être que vous allez dire que finalement, il y a d'autres candidats qui ne sont pas encore déclarés et qui vous séduiront, peut-être. Hein. Tout est possible. Merci en tout cas de votre appel, et vous le voyez, espace de liberté sur Sud Radio, et on échange entre nous, et il y a de la contradiction normale. De la contradiction normale, il va y en avoir aussi dans un instant, avec nos deux invités, pour revenir sur ce week-end politique. Merci à Christine Bouillot d'avoir été avec nous. Arlette Chabot va rester quelques minutes parce qu'elle aime bien aussi toujours quand même la politique, Arlette. Elle est vaccinée à la politique.
Arlette Chabot, présidente.
J'ai nombreuses doses de rappel. Alors là, moi, je ne suis pas à la troisième dose, hein, je peux vous dire.
Restez
avec nous dans un instant. Jules Torres, journaliste politique Valeurs Actuelles, et Thomas Porte, président de l'Observatoire National de l'Extrême Droite. 0826 300 300, vous voulez débattre avec eux et avec Arlette Chabot, avec ses multiples
doses de vaccins.
C'est rappel.
Ça.
Hein.
Voilà, c'est ça. 0826 300 300, tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h18, on va revenir sur les meetings hein, d'Éric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon. On va parler bien sûr de Valérie Pécresse aussi, avec nos invités ce matin. Jules Torres, journaliste politique Valeurs Actuelles, bonjour, merci d'être avec nous. Et Thomas Porte, qui est avec nous aussi, membre du Parlement de campagne de Jean-Luc Mélenchon, président de l'Observatoire National de l'Extrême Droite et auteur du livre Au cœur de la haine, aux éditions Arcane 17. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis vos appels, hein, comme tous les matins, 0826 300 300. Arlette Chabot sera avec nous dans quelques instants. En attendant, c'est Félix Mathieu.
Oui, c'est ça. Alors, on va revenir beaucoup sur ces deux meetings en fait, d'hier. Arlette disait très justement que c'était peut-être les derniers de la campagne. Alors, sans doute pas. Il y en aura probablement d'autres à un moment donné. Mais c'est vrai qu'il y a une inconnue parce qu'il va y avoir des jauges, il va y avoir des restrictions en fait, sanitaires en fait, de nouveau. Donc, on verra. Mais il faut quand même que vive la démocratie. Petite précision au passage, parce que Chantal, tout à l'heure, qui est derrière Jean-Luc Mélenchon et qui nous a appelé, nous disait, non mais alors j'ai cherché, il n'était pas diffusé le meeting. Ben si, il était diffusé avant celui d'Éric Zemmour, c'était à 15h, enfin ou 14h45, du côté de la Défense. On va en parler justement avec nos deux invités dans un instant. Juste avec vous, Félix Mathieu, dans le Factuel ce matin, parce que c'est assez intéressant, ce début de campagne a été marqué par une petite bataille sémantique autour d'une une formule traditionnelle de la République française.
Oui, cette petite formule par laquelle tous les présidents concluent leurs allocutions ici, De Gaulle, Mitterrand et Chirac.
Vive la République ! Vive la France !
Vive la République ! Vive la France !
Vive la République et vive la France !
Et pourquoi on en parle de cette petite formule ? Eh bien parce que Éric Zemmour, dans sa vidéo d'annonce de candidature, l'avait un peu arrangé à sa façon.
Vive la République et surtout, vive la France !
Et surtout, vive la France. Alors, au-delà de l'anecdote, eh bien, cette manière de mettre la nation France au-dessus de l'État républicain n'était peut-être pas dénuée de sens, comme l'a souligné Jean-Luc Mélenchon, qui lui a répondu l'air de rien hier en fin de meeting.
Vive la République ! Vive la France ! Et surtout, vive la République ! Parce que sans elle, Il n'y a pas de France possible.
Jean-Luc Mélenchon qui, parmi d'autres, reproche donc finalement à Éric Zemmour d'avoir dit « Vive la République et surtout vive la France ». Mais en fait, si on remonte un peu en arrière, eh bien souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait déjà lui aussi établi une sorte de petite hiérarchie entre France et République. C'était le soir du premier tour de la présidentielle en 2007.
« Vive la République et par-dessus tout, vive la France !»
Déjà ce petit ajout,
par-dessus tout,
vive la France, ouais, ça avait été un peu relevé à l'époque. Alors, précisons tout de même que la formule, bon, n'a rien d'obligatoire ni de systématique, comme nous le prouve cette archive INA des vœux de Georges Pompidou, c'était le 31 décembre 71.
Bonne année, mes amis, bonne année, et vive la France.
Voilà, il avait oublié la République. La Constitution de 58 ne dit rien sur cette formule, hein, même si, quand même, son article 89 à propos de la procédure de révision constitutionnelle précise, je cite, « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision ».
Oui, et c'est assez intéressant. Merci Félix Mathieu pour ces petites trouvailles. Parce que, Jules Torres, Thomas Porte, on a l'impression que cette campagne, en tout cas telle qu'elle a démarré là, depuis maintenant quelques semaines, tourne autour de deux axes. D'un côté, évidemment, Éric Zemmour, et de l'autre, Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, c'est pas anodin. Mmh. Les deux ont tenu en fait leur meeting hier au même jour. Ils se marquent un peu à la culotte, non, Thomas Porte, non ?
Je ne sais pas s'ils se marquent, mais je vais rappeler une chose parce que j'ai entendu vos débats juste avant. Il n'y a pas eu de discussion entre les équipes d'Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon.
Ah oui, les
équipes de Jean-Luc Mélenchon ont uniquement discuté avec les équipes de télévision. Il n'y a pas eu d'échange avec les équipes d'Éric Zemmour, donc ça, je tiens à le rappeler. Mmh. Oui, il y a un débat sur la question de la République et sur la question de ce qu'on fait de la République, mais je crois que c'est un débat sain, c'est un débat de fond, puisqu'il y a une vision qui est celle d'Éric Zemmour qui place la nation et la France au-dessus de la République, et Jean-Luc Mélenchon dit, et je partage ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de France sans République. Donc c'est un débat de fond, c'est intéressant. Et ça nous fait du bien de sortir des petites phrases, des polémiques, puisque là, on est sur un vrai sujet qui pose un projet politique, un projet de société. Et ça, c'est salutaire. Et Jean-Luc Mélenchon a porté son idéal de la République hier lors de son meeting.
Oui, et d'ailleurs, c'est vrai, hein, on change un petit peu des discours. À travers les deux discours d'hier, Jules Torres, ça change en fait des discussions et des discours que l'on peut avoir, où on va être beaucoup sur le pouvoir d'achat. Là, c'était la France, la République, quoi, ouais, qui était au cœur. En fait,
on a beaucoup de chance dans cette campagne présidentielle. Donc désormais, parce qu'Éric Zemmour il est candidat aujourd'hui, d'avoir probablement les deux meilleurs rhéteurs du monde politique actuel. C'est-à-dire qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon, on le sait, et en 2017, c'est ce qui a fait sa force, c'est qu'il arrive à parler à une foule, à imposer un discours et à être écouté. En fait, on a envie de l'écouter, Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on pense de la forme et du fond. Et là, en fait, il y a Éric Zemmour qui arrive, et on l'a vu hier... dans ce qui ressortait, parce que moi j'y étais, c'était que, oui, il a enfin réussi sa mue, non pas de président, mais de candidat. Hier, ils ont vu un candidat, ils n'ont pas vu un journaliste, et c'est très intéressant. Et pour revenir à votre question initiale, depuis le début, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se tirent un peu la bourre, entre guillemets, parce que la campagne, elle part un peu d'où aussi. Elle part du débat qu'il y a eu sur BFM TV, devant 4 millions de personnes, entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, où là, c'était vraiment deux visions de la France. Qui étaient confrontés, et c'était très intéressant parce qu'en fait, on voyait que eux ensuite. On n'a parlé que d'eux pendant une semaine, ça a fait 4 millions de personnes, ce qui est à dire plus que le cumulé des débats du congrès LR. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et là, il y a évidemment cette petite accroche sur la République et la France. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment, encore une fois, deux visions de la société qui s'offrent.
Et Thomas Porte, vous qui avez suivi, évidemment, tout ce meeting, en fait, hier, comme beaucoup, hein, qui ont pu le regarder, justement, aussi à la télévision, c'est vrai que c'est toujours un formidable tribun, hein, Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce qu'il a décidé de positionner, en fait, son discours, c'est beaucoup ressorti, contre l'extrême droite, quoi, hein, c'est ce qu'il va faire, plutôt que contre Emmanuel Macron, alors finalement.
Bah, je crois qu'il a épargné personne dans son discours d'hier, il a l'habitude de faire ça. Donc effectivement, il s'est posé un rempart contre l'extrême droite, puisqu'on a aujourd'hui un véritable danger de basculement dans ce pays. Et le débat des Républicains a montré comment il y avait une droitisation aujourd'hui du débat qui s'était déplacée, parce qu'on a attendu quand même des sujets au cœur du débat des Républicains, qui étaient les sujets portés par Éric Zemmour ou Marine Le Pen.
Oui.
Mais il s'est pas simplement posé un rempart contre l'extrême droite, il a aussi porter une vision et un projet de société, parce qu'on ne peut pas être simplement en opposition, il faut faire des propositions, et qu'on soit ou pas en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, il a mis son programme sur la table, il y a plus de 800 propositions, hier il a parlé de la réforme des retraites, il a parlé du pouvoir d'achat, il a parlé d'environnement, de nucléaire, donc il propose des choses, et il répond je crois à des problématiques qui sont aujourd'hui au cœur des priorités des gens. Vous regardez les différents sondages comme tout le monde, on voit que l'écologie, le pouvoir d'achat, les services publics, la santé sont aujourd'hui des fortes revendications des citoyennes et des citoyens, et Jean-Luc Mélenchon apporte des réponses à ces sujets, et c'était hier aussi le sens de son meeting, c'est-à-dire, oui, je suis un rempart contre l'extrême droite, mais j'ai aussi un projet qui peut redonner de l'espoir à des millions de personnes.
Oui, Jules Torres, alors pour ceux qui n'ont pas vu, par exemple, aussi Éric Zemmour hier, est-ce qu'il est allé sur d'autres sujets que ceux qu'il aborde régulièrement, c'est-à-dire la sécurité, l'immigration et la France, quoi, avec à chaque fois en image phare.
Ouais, il faudrait
la France un peu dans la nostalgie.
Il faudrait l'écouter, parce qu'en fait, on a tendance à, évidemment, il parle beaucoup d'immigration, de sécurité, d'islam, c'est vrai, mais par exemple, vous voyez, quand il va à Bordeaux, eh ben, il a parlé beaucoup d'économie. Quand je dis à Bordeaux, c'était pendant sa pré-campagne. Et là, hier, il parle par exemple très très souvent de réindustrialisation. Et évidemment, en fait, dès qu'il en parle, on en parle pas et on préfère parler de la violence des antifas, de je sais pas moi, de tout ce qui pourrait en fait perturber la campagne d'Éric Zemmour, tout son discours, tout ça. Pour ne pas parler en fait du fond. Et là, oui, hier, il a fait un discours d'après 1h20 et il a parlé de tous les sujets. Il a parlé d'économie, il a parlé des droits de succession, il a parlé de la flat tax, enfin, il a parlé de tous ces sujets-là.
Oui, oui. Est-ce que tous les deux, ils ont quand même un point commun? Ils s'opposent souvent aussi en victime. Alors, c'était le cas hier quand même. C'était flagrant et même assez fort et violent dans les mots. Ils s'opposent en victime des médias.
Des attaques.
Des attaques, en fait. Bon, et des djihadistes, hein, notamment. Alors, on n'a pas la phrase, en fait, là, immédiatement prête, mais c'était quand même tonitruant, ça.
Ouais, bah, en fait, on l'a senti au départ. Je me souviens, les deux premiers mois de sa pré-campagne, il y avait des articles plutôt sympathiques à son égard. Il a fait des couvertures de magazines, dont Valeurs Actuelles, et on n'a aucun problème avec ça. Il a eu plein d'articles, plein d'interviews, c'était très bien. Mais en fait, depuis 3 semaines, il a senti, ses équipes ont senti, un basculement en fait du système médiatique, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs la phrase qu'il dit à ses soutiens lorsqu'il est à Marseille, il dîne à Marseille, il dit le système m'a choisi, c'est pour ça qu'il n'attaque plus Marine Le Pen. Et en fait, il y a eu cette une de Closer, il y a les médias, je vous le disais tout à l'heure, qui ne relaient quasiment pas la violence des antifas, qui eux-mêmes polluent un petit peu sa pré-campagne en annonçant un essoufflement, un coup d'arrêt, alors qu'en fait, les équipes sont plutôt assez sereines, parce qu'il y a un sondage ou deux en baisse. Et voilà, et c'est pour ça. Et en fait, je pense que Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour ont raison de s'en prendre aux médias. C'est là que je pense qu'on va se rejoindre très, très vite fait. C'est que...
un bref
moment. Non, mais c'est ça. Mais en fait, il y a vraiment deux personnes qui sont aujourd'hui attaquées par les médias. C'est Jean-Luc Mélenchon et les candidats... Poutou, Artaud, c'est la tenaille.
Oui. Je vous rappelle la phrase, Éric Zemmour a dit hier, mes adversaires veulent ma mort politique, les journalistes ma mort sociale et les djihadistes ma mort tout court.
Oui, Thomas Porte, c'est vrai que c'était l'une des postures de Jean-Luc Mélenchon et, à la présidentielle précédente quand même.
Peut-être la présidentielle précédente, mais hier, si vous avez écouté la tonalité de son discours, il ne s'est pas forcément placé en victime de la presse et des médias. Effectivement, donc la critique de la presse, elle est nécessaire et salutaire dans une démocratie. Maintenant, je pense que j'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet-là, parce qu'on a beaucoup de choses d'autres plus importantes à aborder. Ouais. Mais je vais juste... Enfin, moi, quand j'entends Éric Zemmour dire... mes journalistes veulent ma mort sociale.
Oui.
Enfin, pendant 2 ans, il a été à la télé matin, midi et soir sans contradiction sur une chaîne qui s'appelle CNews. On lui donne la parole à longueur de journée sur différentes émissions. Bon, c'est pas ça une mort sociale.
Enfin, non, mais il dit pas qu'il est censuré. Enfin,
il a quand même aujourd'hui une surface médiatique qui est quand même extrêmement importante, avec des médias qui lui ont pendant un moment déroulé son tapis rouge, et effectivement qui est aujourd'hui, il est candidat, donc il y a aussi un compte du temps de parole, donc il faut organiser tout ça, mais je crois qu'il n'y a pas de mort sociale.
Ouais, il ne dit pas qu'il est censuré ou victime d'une censure des médias, il dit que les médias s'attaquent à lui d'une manière dont il ne ferait jamais avec un autre candidat. Typiquement, la presse people, quand elle s'empare de la soi-disant maternité de sa conseillère Sarah Knafo.
Ouais.
Je suis désolé, c'est quand même assez violent, non pas pour lui, mais enfin si pour lui, parce que c'était il va être papa la couverture.
Ouais, bah oui, donc, mais il s'affiche avec elle, quoi, aussi.
Bah, il s'affiche avec elle, mais je suis désolé, mais
les médias, non, mais la, il sait qu'il y a des journalistes.
Aujourd'hui, tout le monde est féministe, mais par contre, ça dérange pas d'attenter à la vie privée d'une femme qui est enceinte. Et en fait, moi, je comprends pas. Personne n'aurait l'idée de faire ça sur Marine Le Pen.
Ouais.
Et bien heureusement d'ailleurs.
Moi, ouais, je suis pas sûr. Bon, enfin bon, s'il y avait eu des photographes. Allez, on continue. On marque une légère pause et on y revient avec Thomas Porte, donc qui fait partie maintenant du staff. Il va nous dire pourquoi d'ailleurs du staff du Parlement de campagne de Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il était, moi, je l'avais déjà vu du côté de d'Europe Écologie Les Verts. Mmh. Bah, bien sûr.
De
Sandrine Rousseau. Oui, il y a une nuance. Il y a une nuance. Tiens, est-ce que Sandrine Rousseau serait capable de rejoindre? Oui, oui. Est-ce que Sandrine Rousseau pourrait rejoindre on ne sait jamais dans cette campagne.
Ouais.
Il peut très bien y avoir, par exemple, Sandrine Rousseau qui rejoint, Jean-Luc Mélenchon, et puis Éric Ciotti qui rejoint, tiens donc,
Éric Zemmour.
Éric Zemmour.
Voilà. Ouais, bah,
tout est possible. Non, vous n'y croyez pas. Bon, voilà, c'est Arlette Chabot qui nous a dit ça. On en reparlera, Arlette, c'est en jamais. Allez, on
et
se retrouve
vous,
dans un
instant. Comment pensez-vous, 0826 300 300, vous attend au standard.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
C'est la suite des grands débats avec nos invités ce matin. Jules Torres qui est avec nous, journaliste politique Valeurs Actuelles, et Thomas Porte, membre du Parlement de campagne de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, et vos appels au 0826 300 300, vous allez réagir dans un instant. Arlette Chabot est toujours là. Thomas Porte, d'un mot quand même, parce que on n'a pas insisté en fait là-dessus avec vous tout à l'heure, mais c'est vrai que vous étiez au côté,
la mue.
vous étiez aux côtés de Sandrine Rousseau. Vous êtes passé chez Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Alors que vous étiez, j'avais l'impression que vous aviez quand même l'écologie au cœur, dans les tripes, non ?
Oui, mais je crois que le programme de Jean-Luc Mélenchon est un programme écologique, puisqu'il quand même, il porte cette question-là depuis un certain nombre d'années sur la question de la bifurcation écologique. Mais je crois que moi, je ne remets pas en cause les engagements écologiques de Yannick Jadot. Je l'ai dit plusieurs fois sur différents médias, je respecte ces engagements écologiques depuis des années. Simplement, je considère qu'il faut avoir un modèle qui soit en rupture avec le système capitaliste et avec la logique libérale. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense que celui de Yannick Jadot ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de rejoindre non pas la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, mais un programme, l'Avenir en Commun, et le Parlement de campagne qui va être présidé par Aurélie Trouvé, qui est l'ancienne présidente d'Attac, et qui va laisser la place à 100 personnalités du monde associatif syndical. Nous avons Anthony Smith, un inspecteur du travail qui a été licencié. Nous avons Rodrigo Arenas, qui est l'ancien président de la FCPE, l'ancien président du Secours Populaire. Donc il y a des gens qui mènent des batailles sur le territoire, qui mènent des combats depuis des années, et qui considèrent qu'aujourd'hui, ils franchissent le pas de s'engager politiquement pour que ce projet-là arrive au pouvoir et change la vie des millions
alors
de gens.
Alors ce Parlement de campagne, si on en dit un mot, ça va, il va être chargé de nourrir un peu, c'est ça, les alors, troupes de la France Insoumise pour faire évoluer le logiciel alors ou pas ?
Et alors il a quatre fonctions ce Parlement de campagne. La première, c'est celle d'être consulté par Jean-Luc Mélenchon sur la temporalité de la campagne, la stratégie, de sentir un peu comment ça se passe dans le pays, puisqu'il y a, ce que j'ai rappelé, il y a des gens d'horizons divers. Donc chacun vient avec son expérience apporter ce qu'il pense et ce qu'il ressent sur le terrain. Il a vocation à continuer à s'élargir puisque nous allons être rejoints par d'autres personnalités, d'autres syndicalistes, d'autres militants associatifs qui vont venir grossir les rangs dans les semaines à venir. Le troisième, c'est celui d'enrichir le programme, puisqu'il se décline aussi un livret thématique sur la pauvreté, sur le handicap. Donc chacun va pouvoir apporter des contributions et travailler là-dessus, mener l'initiative. Et la quatrième fonction que nous avons décidée collectivement hier, qui n'était pas prévue à la base, c'est une grande campagne d'éducation populaire contre l'abstention, pour amener les gens des quartiers populaires, les gens de la ruralité, les gens qui ne votent plus aujourd'hui, revenir voter pour montrer que voter, ça sert à quelque chose, et qu'on peut faire gagner un programme et un candidat, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, Jules Torres, à qui il s'adressait hier Éric Zemmour, selon vous? Parce que dans les premières prises de parole, on a beaucoup dit que lui s'adressait finalement à une droite un peu plus conservatrice, mais qui voulait aller plus loin, en fait, en tout cas dans les actes, qu'à une droite populaire qui était toujours chez Marine Le Pen.
Hier, il s'est adressé, à mon avis, à tous les électeurs de droite. C'est-à-dire les personnes qui sont déçues du résultat des congrès, du congrès LR, notamment les électeurs d'Éric Ciotti, qui en fait se retrouvent avec ils avaient un vrai candidat de droite, d'une droite forte, avec en fait une femme de centre-droit qui a été ministre sous Sarkozy, qui a purgé, une droite molle, une droite centriste, qui a purgé les éléments conservateurs de son conseil régional, et ça a pas plu à beaucoup de militants, et d'ailleurs on le voit là avec ce qu'il se passe en ce moment entre les deux, il se tire des balles alors que Éric Ciotti représente quand même 40% des suffrages alors que personne ne le donnait à ce score-là, donc c'est quand même qu'il y a au sein de la base des militants LR, une vraie droite, enfin des militants d'une vraie droite. Et donc il s'adresse à ces gens-là, il s'adresse aussi aux abstentionnistes, évidemment, ouais. Hein, à chaque fois, Éric Zemmour, dans les enquêtes d'opinion, on voit qu'il récupère, enfin, son électorat, pour l'instant, c'est à peu près un tiers d'abstentionnistes. Donc, c'est très intéressant. Il veut les faire revenir. Et évidemment, il y a ces électeurs de Marine Le Pen, parce que lui considère évidemment qu'elle ne peut pas gagner parce qu'elle s'appelle Le Pen, tout simplement, non pas parce qu'elle est, parce qu'elle est nulle. Même si je pense qu'il le pense, mais
il
le dit. Mais ouais, voilà, c'est parce qu'il pense qu'elle ne peut pas gagner et que bah voilà, ça fait quand même 20% d'électeurs qui pourront jamais gagner.
Arlette Chabot, sur ce que disait en fait un instant Jules Torres, est-ce que là la semaine et la journée n'est pas particulièrement déterminante pour les LR? Soit effectivement il y a
la balade sur la côte.
Non mais non mais c'est ça. Soit évidemment il y a cette réconciliation, ce rassemblement entre les deux. Soit il y a une scission au sein des LR. Alors déjà, les LR ne pesaient pas forcément très lourd, mais ça peut les diviser. Ils peuvent se rassembler ou se diviser.
Il faut qu'ils se rassemblent, parce que s'il y a une chance pour les LR de sauver leur peau, si j'ose dire, ça veut dire d'être qualifié au moins pour le second tour, c'est le minimum, je ne dis même pas gagner face à Emmanuel Macron, mais être qualifié pour le second tour, c'est encore une fois une question de survie pour le parti. Il doit y avoir l'alliance des deux. On ne peut pas dire que le programme de Valérie Pécresse, pardon, soit extrêmement centriste. Hein.
Je n'ai pas parlé de programme, j'ai parlé de personnalité.
De personnalité,
non, mais d'accord, mais ce qui compte, ce qu'elle propose et ce qu'elle met sur la table. Les propositions sont un peu différentes. Les deux, avec Éric Ciotti, sont des héritiers de François Fillon. Ils ont en commun un programme économique libéral. Ouais. Éric Ciotti dit lui-même que c'est le programme dont il était le plus proche pendant la campagne. Et sur le sujet de l'immigration ou de la sécurité, avec notamment un directeur de campagne qui est Patrick Stéphanie, qui quand même n'est pas tendre avec sur les mesures ou n'est pas mou par rapport aux mesures qu'il faut prendre sur l'immigration, on ne peut pas dire qu'elles soient molle non plus. Néanmoins, si, encore une fois, ils veulent essayer au moins de se qualifier pour le second tour, ils sont condamnés à s'allier et à s'entendre. Quel est l'espoir pour Éric Ciotti? C'est d'être ministre de l'Intérieur d'une Valérie Pécresse qui serait élue présidente de la République.
C'est ce que l'on dit, un dernier mot aussi, voilà, Thomas Porte. On dit que si la gauche, elle veut réussir, là, il faudrait qu'elle s'allie. Vous croyez que c'est encore possible ou ce n'est pas possible?
Je crois que l'idée, le parlement de campagne mis à place par Jean-Luc Mélenchon, c'est l'union populaire par la base, puisque effectivement, il y a eu des tentatives de réunion et ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, celles et ceux qui s'inscrivent dans ce Parlement sont pour le rassemblement des gens qui mènent des batailles. Et c'est aujourd'hui une dynamique collective qu'on enclenche et on appelle de nombreuses personnalités à nous rejoindre pour gagner en 2022.
Oui. Allez, dernier appel, parce qu'il nous reste peu de temps. Ce sera la France à vos côtés dans un instant. C'est
Jordan qui nous appelle de Lens. Bonjour Jordan.
Oui, bonjour madame. Voilà, merci de prendre mon appel.
Bon, Jordan, je crois que vous étiez à un meeting hier. Celui de Zemmour ou celui de Mélenchon?
Ah non, celui d'Éric Zemmour.
Celui d'Éric Zemmour. Okay. Ah non, mais il y avait Chantal tout à l'heure qui était pour Mélenchon. Alors, oui. D'accord. Allez, deux contre un, puisqu'il y avait Jérôme aussi qui était à Zemmour. Et alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti pour vous?
Alors, en fait, si vous voulez, c'est la première fois de ma vie que j'appelle une radio. Je voulais le faire aujourd'hui parce que je trouve le traitement médiatique absolument abject envers ce qui s'est passé là-bas ou d'après les médias, ce qui s'est passé. Je voulais juste préciser que c'était un rassemblement excessivement pacifique, dans une ambiance exceptionnelle, avec des gens venus de tout horizon. J'ai vu des gens, des chômeurs, des smicards, des médecins, des infirmiers. Moi-même, je suis à un salaire très modeste. Je dénonce en fait le battage médiatique là-dessus, nous traitant de fachos, de nazis, de violents. Je vais rapidement vous faire le petit tour d'horizon. Nous sommes arrivés très tôt, aux alentours de 10h30, 11h, je ne sais plus très bien, en cherchant le hall d'entrée pour accéder au meeting. Nous sommes passés devant la gare où il y avait déjà des antifas, de toute façon physiquement, si vous voulez, l'emballage le montrait déjà très clairement. Il y avait déjà de nombreux contrôles de police. Mais il n'y avait pas d'échauffourée, en tout cas, quand nous sommes passés. On est ensuite arrivé devant les portes du hall environ 1h30 avant l'ouverture des portes, blindés de CRS, etc. Donc, pareil, bonne ambiance, on ne craignait rien, ça s'était très bien passé. On a attendu dehors 1h30 sous la pluie. On est rentré par la suite, ça s'est extrêmement bien passé.
Ouais.
De là, les premiers intervenants ont commencé aux alentours de 15h, 15h30. Pareil, extrêmement bien passé. Et en effet, cela a commencé avec les antifas, ou la gauche, je ne sais pas, quand Éric Zemmour est arrivé, puisque le premier agressé a été Éric Zemmour, on l'a tous vu, il s'est fait appaguer par le cou et je crois même blessé au poignet assez fortement.
9 jours d'ITT, ça commence mal.
Voilà, tout à fait. Donc c'est un antifa qui a sauté sur lui, donc première agression.
Ouais.
Le type s'est fait sortir, on l'a vu, sans violence particulière, comme un videur sort quelqu'un en boîte de nuit, si vous voulez, ni plus ni moins. Hein.
Ouais.
Le mec s'est pas fait cracher dessus. Hein.
Ouais.
Ensuite, il y a eu une autre interpellation, mais un peu plus loin, que je n'ai pas vu. Et ensuite, ce qui a émaillé, je dirais, le meeting, c'est en effet quasiment au dernier rang. Dans le fond, enfin, nous, on était plutôt devant, mais vraiment dans le fond, on le distinguait très bien. Et on est allé voir directement quand ça a chauffé. Il y a eu apparemment une dizaine, plus ou moins, de manifestants d'SOS racisme, j'ai pu comprendre.
Ouais, c'est ça.
Qui faisaient des leurres, voilà, qui foutaient clairement le bordel. Enfin, il faut clairement le dire les choses. C'est clairement eux qui ont commencé à insulter, à foutre le bordel, à vouloir perturber le meeting. Zemmour, il est resté droit dans ses bottes, il continuait de parler, etc., alors que tout le monde, justement, constater ce qui se passait, il y a eu des...
C'est-à-dire que vous, par exemple, vous étiez devant et vous regardiez ce qui se passait à l'arrière,
Quand je dis devant, on était, disons, à bonne distance, plutôt dans les bons premiers rangs, plus ou moins, on s'est mis sur les chaises, en fait, comme tout le monde tournait le visage vers le fond, si vous voulez, à tel point que les militants, enfin les gens qui assuraient le spectacle, disaient non, regardez devant, lâchez rien, etc., ils avaient raison. Et en effet, on a tous constaté, un ami à moi est parti voir, j'y suis allé aussi, que c'était bien les gauchos qui avaient bien foutu le bordel et qui voulaient perturber le meeting.
Ouais.
Et après, les types se plaignent de se faire rouster voilà.
Après, Jordan, bon, on va pas revenir en fait et épiloguer là-dessus. Merci de votre témoignage, en tout cas de votre appel. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a des militants plus ardus, si je puis dire, qui sont intervenus. Et là, c'était allé à la castagne, alors qu'il y avait un service de sécurité qui était là, en fait, Jules Torres. Hein.
Oui, bien sûr, en fait, c'est toujours le même problème, c'est que ces gens-là, en fait, je parle des militants d'extrême gauche, ne viennent pas, en fait, pour manifester pacifiquement. Oui, alors, très bien, ils mettent une petite pancarte non au racisme, enfin, avec des t-shirts, c'est très bien. Mais en fait, si, imaginons, il y avait eu des... Enfin, est-ce que... Non, déjà, la question, c'est pas ça. C'est est-ce que des militants, je ne sais pas moi, d'extrême droite, d'ultra-droite, comme on veut, auraient l'idée d'aller dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon?
Ah bah peut-être.
Et vous savez quoi? S'ils se faisaient casser la gueule, eh ben ce serait bien fait pour eux.
Ouais.
On n'a pas à venir comme ça.
Ouais. Bon, après,
Non, mais vous savez, depuis deux mois, y a à chaque fois qu'Éric Zemmour prend la parole, que ce soit à Nantes, à Biarritz, à Bordeaux, partout, il y a des manifestations,
des
contre-manifs devant ces meetings et ça se passe très bien. Mais là, ils viennent à l'intérieur.
Et
qu'est-ce que vous... Ils savaient que ça allait arriver. Et la question, d'ailleurs, c'est pas ça, parce que les médias, en fait, se concentrent là-dessus. Mais 7 couteaux prises par les équipes de sécurité, de l'acide, des cocktails Molotov.
Ah oui, il y a eu tout ça.
Moi, je l'ai vu nulle part.
Ouais. Merci en tout cas, Jules Torres, donc journaliste politique à Valeurs Actuelles, et Thomas Porte, donc qui est passé maintenant dans le staff du Parlement de campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Merci Arlette Chabot. Et vos appels 0826 300 300. Je sais que vous étiez encore nombreux à nous appeler. Mais la France à vos côtés sur une des préoccupations importantes en fait maintenant avec le chauffage.
Ça concerne des millions de Français en France. On va revenir sur le fioul. Vous savez que ça va être interdit en 2022. On va en parler avec nos invités. On vous expliquera si vous êtes éligible ou pas éligible, à qui ça concerne. En tout cas, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous n'avez pas tout compris, mais on va tout vous expliquer dans quelques minutes. À tout de suite.